Eh bien, bonsoir à chacun de vous pour ce nouveau mardi d'éthique publique du Centre Sèvres, le premier de l'année 2015. Et je suis particulièrement heureux de vous retrouver et de vous saluer en ce début d'année, à la fois vous qui êtes présents dans la salle ou bien vous qui nous suivez en direct maintenant dans plusieurs villes de France dont la liste ne cesse de s'allonger au fil des soirées, ainsi qu'à Athènes. Voilà, qui nous suit en direct. Alors je vous souhaite une très bonne nouvelle année, que se réalise ce qui vous tient le plus à cœur. Et dans la mesure où nous sommes réunis par un intérêt pour les questions d'éthique, je formule le vœu que nos sociétés progressent dans le respect de chacun, dans l'accueil de l'autre, dans l'attention portée aux conditions d'un meilleur vivre ensemble, tant à l'échelle de notre pays qu'en ce qui concerne les solidarités internationales, et que nous-mêmes, d'ailleurs, soyons capables de prêter attention à ce qui peut nous faire progresser dans une conscience citoyenne éclairée et renouvelée. Ces soirées du mardi sont chaque fois l'occasion pour le Centre Sèvres, en partenariat avec la revue Études, d'apporter des repères pour la réflexion et pour l'action dans un climat d'écoute et de débat. Aujourd'hui, c'est plus particulièrement en lien avec le département éthique biomédicale du centre, dirigé par Bruno Sainteau, qui va animer le débat, que cette soirée a été organisée. Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier ce département, son directeur, et puis tous ceux qui contribuent à son animation, de les remercier pour la contribution qu'ils apportent à la réflexion éthique, pour les positions aussi qu'ils sont amenés à prendre dans le débat public. Ces positions, vous pouvez les retrouver dans les propositions d'enseignement qui sont faites au Centre Sèvres, mais vous pouvez aussi les rencontrer dans le blog du département qui est tenu régulièrement sur le site du journal La Croix, auquel je ne peux que vous renvoyer et qui a pour titre « Avec soin ». Trois points de suspension, la bioéthique, pour quelle humanité? Alors je donne tout de suite la parole à Bruno Sainteau et je remercie aussi déjà très vivement les professeurs Gentilini et Le Port pour avoir accepté l'invitation qui leur était adressée.
Merci beaucoup. Périodiquement, au cours de l'histoire, les épidémies dues aux maladies infectieuses ont provoqué le décès de milliers de personnes et de grandes inquiétudes, pour ne pas dire de terreur, parmi les populations. Après le développement du sida causé par le virus VIH à la fin du XXe, le XXIe siècle s'est affronté au SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, à la grippe A provoquée par le virus H1N1, sans parler des épidémies de chikungunya à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. L'épidémie de virus Ebola a connu plusieurs phases dans l'histoire, depuis la première épidémie de 1976. En 2013, l'épidémie a connu un développement particulièrement fort en atteignant des milliers de personnes en Afrique et en constituant aussi, pour les autres continents, une menace. Aussi, nous sommes concernés par cette épidémie, non seulement parce qu'elle pourrait menacer sérieusement notre pays, mais aussi parce que nous sommes solidaires de ces populations et que le soin ne connaît pas de frontières. C'est ainsi que des soignants étrangers à l'Afrique ont donné leur vie pour soigner des populations éprouvées. Je ne peux que saluer aussi un certain nombre d'ordres religieux hospitaliers qui se sont fortement investis, notamment les frères de Saint-Jean de Dieu, en perdant notamment plusieurs frères. Comment réagir? Comment réagir médicalement, socialement, politiquement? Nous avons souhaité faire appel à deux spécialistes pour nous aider à comprendre les enjeux de cette épidémie, tant en Afrique qu'en France. Quelle est la situation actuelle des populations concernées? Comment traiter les peurs qui assaillent les populations, qu'elles soient concernées ou non d'ailleurs? Quelles sont les préventions, les traitements possibles ou envisagés? Quelles sont les solidarités médicales et politiques actuelles? Qu'est-ce qui serait peut-être aussi à développer ou à corriger pour mieux lutter contre cette épidémie. Alors nous avons l'honneur et la chance d'avoir deux personnes spécialistes, engagées, aujourd'hui, donc je salue le professeur Marc Gentilini et le professeur Catherine Leport qui ont bien voulu nous accompagner dans cette réflexion. Nous allons commencer par la situation de l'Afrique où le virus s'est développé. Merci donc au professeur Gentilini d'être présent ce soir parmi nous. Merci de nous faire bénéficier de vos compétences et puis on pourrait dire très largement de votre sens de l'engagement médical et aussi social, politique. Vous êtes professeur émérite des maladies infectieuses et tropicales, membre de l'Académie de médecine, ancien président de la Croix-Rouge, fondateur de l'Organisation panafricaine de lutte pour la santé. Vous voyagez beaucoup, vous connaissez beaucoup de monde, des médecins, des hommes politiques aussi. Donc merci de nous faire profiter de vos connaissances, de vos relations, pour nous faire apprécier ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique, quelle est la situation, quelle est l'organisation de la prévention des traitements, peut-être aussi quelles sont les dimensions culturelles et politiques de l'épidémie, comment faire participer les familles à la lutte contre le virus, comment aussi une épidémie peut-elle déstabiliser un régime politique, et de nous préciser peut-être aussi le rôle des institutions internationales, Médecins sans frontières, OMS, etc. J'ai bien conscience que nous vous posons un défi. Vous avez 25 minutes, en tout cas pour donner les éléments les plus importants. Ensuite, nous passerons la parole au professeur Leport et puis nous aurons pour le restant du temps des échanges avec la salle et puis aussi avec ceux qui sont dans d'autres villes. Voilà, merci beaucoup.
Merci mon père. J'espère que vous m'entendez bien. Je reviens dans cette maison très longtemps après y avoir été hébergé, puisque complètement fauché, arrivant à Paris, j'ai eu la chance d'être accueilli au 35 rue de Sèvres et de loger dans les chambres de service qui étaient assez précaires, mais qui me convenaient parfaitement. Donc, vous voyez, une carrière, ça consiste à arriver 35 rue de Sèvres, et puis 50 ans ou 60 ans plus tard, de revenir 35 rue de Sèvres. Merci de votre accueil, et j'espère que ce que je vais vous dire correspondra à peu près à ce que vous attendez. Mais c'est un peu décevant, parce que la maladie à virus Ebola, c'est ainsi qu'il faut l'appeler maintenant, l'OMS le souhaite, le veut, l'ordonne, ce qui ne change rien à la question, mais ce n'est pas vraiment une fièvre hémorragique. Les hémorragies dans cette maladie sont présentes, mais dans moins de la moitié des cas. Donc il ne faut pas s'attendre à voir un malade qui saigne de tous les côtés pour faire le diagnostic de fièvre à virus Ebola. Ça a commencé en 1976. Et je me souviens de cette première épidémie qui était marquée par l'effet suivant. Elle frappait les Blancs, elle frappait les médicaux et elle frappait les religieux, ce qui aux yeux des Africains autour de, du Zaïre de l'époque et du Soudan, du Sud-Soudan, était un peu surprenant. A priori, ces trois catégories d'individus étaient censées être davantage protégées que les autres. Eh bien, la répétition vient d'apparaître avec l'épidémie en cours. Parmi les premières victimes, il y a eu en particulier les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui ont perdu trois des leurs en août 2014 au Libéria et en Sierra Leone. Et c'est parce que les soignants sont en première ligne, c'est parce que souvent ces soignants étaient à l'époque des Européens, des Européennes, des sœurs italiennes pour la première épidémie en 1976, et c'était des gens qui ne se sont pas protégés parce qu'ils ne savaient pas que la contamination était aussi facile. C'est le virus le plus tueur qui existe actuellement. Bon, il ne tue pas à tout coup, mais il tuait à l'époque à 90 ou 80%. Actuellement, il a tué au début de la maladie à 80%. Et on s'est aperçu que si on administrait des soins précocement, bien suivis, si on nourrissait les malades, si on les réhydratait, on pouvait faire baisser la létalité jusqu'à 15%. Donc, c'est une maladie qui n'est pas totalement incurable et qui peut être, si elle est vraiment prise en charge, qui peut être maîtrisée. 1976, la première épidémie. Peu importe le nombre de morts, un peu plus de 300, mais ça s'éteint rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on prend les bonnes mesures, on repère très vite que c'est une maladie contagieuse par tout ce qui coule. C'est ce qu'il faut retenir. C'est tout ce qui coule, les larmes, la sueur, les diarrhées, les vomissements, tout ce qui suinte, tout ce qui coule est contaminant. Et en revanche, il n'y a pas de contamination par voie respiratoire. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Ce n'est pas la contamination d'une grippe pandémique, cataclysmique, comme celle qu'avait prévue Margaret Chan, la patronne de l'Organisation mondiale de la santé en 2009, et pas plus que celle qu'avait prévue Mme Bachelot, qui l'avait docilement suivie à l'époque. Vous vous souvenez de cet épisode, nous allions tous mourir, et il est mort moins de malades, moins de grippés qu'au cours des années précédentes. Tant mieux. Bon. Ce n'est pas une maladie transmissible par voie respiratoire. Mais si vous touchez même un corps, si vous touchez quelque chose qui est humide, vous risquez de vous contaminer. Il y a donc des mesures faciles à prendre qui permettent de maîtriser l'infection. Il faut se protéger les mains. Il faut se protéger le visage et il faut se laver les mains le plus souvent possible. C'est une règle absolue. Ces mesures simples ont permis en partie de maîtriser l'épidémie initiale de 1976. Et puis depuis, il y a eu une trentaine d'épidémies à virus Ebola. Et personne ne s'en est préoccupé. C'est là qu'est la faute majeure. Prenons d'autres exemples. Tout à l'heure, Père, vous avez cité des maladies, mais on aurait pu, si on avait pu projeter, lister un certain nombre d'affections. Ça a commencé par la fièvre Marbourg. Vous ne vous en souvenez pas, mais ce sont des chercheurs allemands qui ont été atteints par ce virus, et le virus Marbourg est le cousin germain du virus Ebola. Ce sont deux virus très proches. Puis après, il y a eu, en 1969, la fièvre de Lassa. Il y a eu la panique déjà. Je me souviens de réunions à l'assistance publique où on disait Claude Bernard, qui existait encore, ne pourra pas héberger la totalité des malades. Et il faut construire des centres hautement sécurisés qui permettent de les prendre en charge. Il n'y a pas eu de drame avec la fièvre de Lassa. Ensuite, 1976, Ebola. Alors là, la peur s'installe pendant quelque temps, mais pas de transmission au-delà de la région. C'est une épidémie meurtrière, certes, mais régionale, très localisée. Alors, la grande règle, celle qui fait peur aux médias et par conséquent au bon peuple, c'est qui les lit, c'est la maladie qui franchit les frontières. Pas n'importe quelle frontière. Tant que la maladie passe les frontières africaines, ça ne dérange personne. Quand la maladie est passée de la Guinée au Sénégal ou de la Guinée au Mali, ça n'a gêné personne. Ça gêne le monde et ça gêne les puissants à partir du moment où le virus change de continent. C'est le changement de continent. Si ça passe en Europe, c'est un début de panique. Si ça passe aux États-Unis, ce qui s'est produit au mois de début octobre 2014, un homme se présente dans un hôpital du Texas à Dallas, une ville où on meurt de temps en temps. Et à Dallas, il vient à l'hôpital, on lui demande « Mais je viens d'Afrique, du reste il était africain, et on ne s'inquiète pas. À l'accueil, on le transmet, on le fait entrer dans une pièce pour les urgences. Aux urgences, on ne lui pose pas la question « D'où venez-vous, monsieur ?» On l'accueille, et il était porteur du virus Ebola, il en est mort, et il a contaminé l'entourage. Alors, les grandes leçons que nous donnent le CDC d'Atlanta et les autres sur les règles à observer, il faudrait d'abord qu'ils les appliquent à eux-mêmes et qu'ils aient une position très ferme et très simple. Quelle est la question à poser à un suspect? Un malade, un sujet suspect, d'où venez-vous? Avez-vous fait un voyage en Afrique tout récemment? Et ça, c'est la question à laquelle un malade ne peut pas échapper s'il est bien interrogé, bien pris en main par des services d'urgence. Et c'est important. Et alors, s'il est suspect, il est contaminant? Non. S'il est suspect, il n'est pas vraiment contaminant. S'il est suspect, il faut attendre qu'il y ait des signes évidents cliniques pour qu'il devienne réellement suspect. Et ce qui est grave, c'est que plus la maladie évolue, plus la charge en virus s'accroît et qu'il est de plus en plus dangereux. Plus le malade avance dans la maladie, plus il est dangereux. Il est beaucoup plus dangereux à la fin qu'il ne l'est au début où il est parfois repéré. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé au début. Et puis après, il y a eu beaucoup de cas qui ont été signalés. Personne ne s'en est vraiment préoccupé. Il faut attendre, non pas décembre 2013, qui est la date du premier cas repéré en Guinée, d'un enfant, dont on dit maintenant qu'il s'est contaminé non pas avec des chauves-souris frugivores, mais avec des chauves-souris qui sont insectivores. Il y aurait des petites chauves-souris qui seraient dans un tronc d'arbre et il aurait été contaminé de la sorte. Le premier cas serait ce gosse qui a été rapatrié dans sa famille et qui a contaminé. Ensuite, retenez peut-être que le mode de contamination, on le connaît encore assez mal, mais que c'est une maladie qui part des animaux et des chauves-souris en particulier, mais aussi des singes, de tous les animaux de chasse. Et au début, dans l'épidémie de 1976, ce qui avait été bien indiqué, c'était des chasseurs partis qui avaient tiré des animaux, peut-être plus faciles à abattre parce que déjà malades, et qui les avaient ramenés dans leur foyer. Et ils en étaient morts, eux, porteurs de la bête, et ils avaient contaminé la famille, et la maladie évoluait en trois stades. Première strate où l'infection tue tous ceux qui sont contaminés. Deuxième zone, un peu plus éloignée, elle rend malade, mais ne tue pas. Et troisième zone, elle le rend même plus malade et il y a une séroconversion prouvant que le sujet a été en contact avec un suspect ou un malade confirmé. Donc cette infection avait évolué au début en foyer très localisé. Et la grande différence avec l'épidémie d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des zones de grand passage. Il y a beaucoup de mouvements à la frontière entre la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Et les gens bougent beaucoup plus qu'avant. Ils bougent énormément, les populations bougent beaucoup. Et c'est une zone qui est marquée par trois pays. Vous les voyez sur la carte peut-être, je ne sais pas si on la distingue bien, cette carte qui figurerait dans une salle de classe comme autrefois. Je vous montre la Guinée qui est en couleur ici. Et elle est en forme de besace, enfermant deux pays qui sont la Sierra Leone et le Libéria, en bas, en gris. Et voyez les pays voisins qui ont fait parler d'eux. La Guinée-Bissau, un pays d'1,5 million habitants à peu près, c'est pas grand-chose, au point de vue démographique. Et le Sénégal ensuite, que vous apercevez, un Guinéen a filé se faire soigner à l'hôpital Fane à Dakar, et ça a fait toute une histoire, et la ministre de la Santé du Sénégal, que nous connaissons bien, a dit « moi, je ferme la frontière ». Le président Alpha Condé de Guinée a dit « c'est scandaleux, c'est pas des frères, où sont passés nos frères ?» En fait, épidémiologiquement parlant, elle avait raison. Mais ça crée une tension très sévère, si bien que Récemment, on pensait que le président Alpha Condé ne se rendrait pas pour l'élection du successeur du président Abdou Diouf pour la francophonie à Dakar, et c'est le président Hollande qui l'a décidé, en passant à la sauvette à Conakry, d'aller jusqu'à Dakar. Ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas de candidat sénégalais. Et ensuite, vous avez le Mali. Un Guinéen aussi est parti se faire soigner à Bamako. Il a tué. Il y a eu quelques personnes qui ont été victimes, qui sont mortes. Mais il n'y a pas eu de foyer. Et quand les journaux titrent « Premier cas de virus Ebola aux États-Unis » ou « Premier cas de virus Ebola au Mali », ils mentent, ils trichent. Ce sont des cas d'importation, ce ne sont pas des foyers. Et on n'a pas le droit d'alerter les populations et de secouer l'économie. Parce que la crise sanitaire, c'est une chose, mais ça n'est rien du tout. La maladie, elle a des conséquences considérables. J'ai fait la liste de ce qu'on pourrait dire. La crise est sanitaire, certes. Létalité entre 50 ou 25 ou 15 % et 80 %. Elle est médiatique. C'est l'épidémie de la peur. Et de la peur avec le scénario catastrophe qui est toujours inscrit dans les journaux à chaque fois qu'il y a une maladie à agent pathogène transmissible. Comme autrefois, les maladies pestilentielles. Vous savez, nos aînés étaient très marqués par cela. Si l'hôpital Claude Bernard, que Catherine Leport a bien connu, était situé hors les murs, c'était parce qu'autrefois, on mettait ceux qui étaient contaminants en dehors de la ville, à commencer par les lépreux, qu'on mettait tout à fait à part, et tous les autres. Et on avait raison. C'était la seule façon de ne pas contaminer tout le monde, vous le savez, et actuellement, on peut regretter que Médecins Sans Frontières, qui est une ONG tout à fait remarquable, ait commis l'erreur de mettre les malades dans le CHU Donka de Conakry, au centre du CHU. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé? Les gens ont pris peur, d'abord parce qu'il y a eu des médecins et des soignants qui sont morts par contamination. Donc la peur était légitime. Mais en plus, les infirmières se disaient, et les infirmiers, moi je ne viens pas travailler, je me fais porter pâle, si je puis dire. Et ensuite, les malades eux-mêmes refusaient de venir au CHU. Donc le CHU était déserté, il n'y avait plus que le centre, ou surtout le centre de malades Ebola. Et le but du président de la République de Guinée actuellement, c'est de sortir les malades du CHU de Conakry pour les mettre dans des centres périphériques. Alors aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et quand je vois des associations qui font appel à des dons, je dis oui, si elles s'impliquent dans la lutte contre le virus Ebola. Mais quand elles ne s'impliquent pas directement, il y a une association que je respecte beaucoup, je suis donateur régulier, Handicap International, très bonne ONG, mais ce n'est pas elle à faire appel à don pour le virus Ebola. Bon, et je prends cet exemple-là parce qu'elle est inattaquable par ailleurs. Mais remettre les gens debout, oui, je veux bien, il faut les remettre debout. Ils sont couchés, ils sont fébriles, ils sont vraiment mal en point, les malades Ebola, mais on ne va pas les béquiller, ça ne sert à rien, ce n'est pas comme ça qu'il faut les prendre en main. C'est une crise sociale, car je me souviens, au mois de mai, je suis allé en Guinée, l'équipage d'Air France a refusé de coucher à Conakry. On dit, mais pourquoi? Vous nous faites faire une escale forcée à Dakar. Non, on n'est pas d'accord. Personne ne descend, personne ne monte. Mais, sauf, descendait l'équipage, qui, lui, couchait à Dakar. Et on prenait un autre équipage, suffisamment neuf, pour repartir immédiatement après avoir atterri à Conakry et ne pas coucher non plus à Conakry. Tout ça coûtait très cher. Mais Air France a maintenu ses vols. Et ça, c'est à inscrire à son crédit. Bon. Air Maroc aussi. Le Maroc a été courageux, mais d'autres compagnies ont stoppé les vols. Et ça a été, pour la Guinée, un très mauvais coup. La crise était sociale, elle était économique également. Il n'y a plus personne dans les hôtels de Conakry, très peu de gens. Vous avez toutes les places que vous voulez. Si vous pouvez négocier tout ce que vous voulez pour aller passer des vacances à Conakry, ce que je ne vous conseille quand même pas. Non, parce que, Conakry, c'est pas encore l'idéal. J'ai connu Conakry sous Sékou Touré, c'était pire, mais depuis, ça ne s'est pas encore vraiment arrangé. Il y a d'énormes problèmes, et nous avons notre part de responsabilité dans tout ça, sans nous culpabiliser à l'extrême. Alors, je continue. Bon, j'ai encore combien de secondes ?
Vous avez 5 minutes encore.
5 minutes.
Oui.
Bon, alors, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. De toute façon, je m'arrêterai pile en cours de phrase.
Oh, large.
Le sida. Je vous rappelle que le sida, et dont l'apparition, l'émergence, est très proche par certains aspects de l'émergence du virus Ebola. Il y a des refus, il y a des rejets. C'est 1981, l'émergence du sida. Alors je dirais, la dengue, ça fait sourire quand on dit la dengue, mais la dengue, ça existe et c'est international. C'est la raison pour laquelle il y a eu des recherches sur le virus de la dengue, avec tentative de mettre au point un vaccin, parce que c'était rentable, parce que c'était cosmopolite, parce qu'on pouvait y aller, il y aurait des acquéreurs. Mais pour le virus Ebola, c'était très localisé, strictement africain, pas du tout de marché assuré, même si on trouvait un virus. Or, le vaccin contre le virus Ebola est possible, beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus logique d'espérer un vaccin contre Ebola que contre le sida dans l'immédiat. Alors je passe sur le SRAS, sur le chikungunya, sur la grippe H1N1 dont j'ai déjà parlé, et enfin l'épidémie de 2014 d'Ebola, et tout le monde s'agite à partir d'octobre. Ça commence en décembre 2013, et c'est en octobre qu'on sonne l'alerte internationale et qu'on envoie de l'argent. Et l'ambassadeur américain, qui avait beaucoup d'argent en Guinée, faisait le siège des associations pour dire « Écoutez, donnez-moi un projet que je finance, parce que moi, on m'a envoyé de l'argent, il faut que je dépense. » Il part sur la route de Macinta, là où je vais me rendre dans quelques jours, et il part avec sa voiture, il sort son fanion, le drapeau américain que vous connaissez bien, il a failli se faire lyncher. Parce qu'on en est là actuellement, la rumeur sur laquelle va revenir certainement Catherine tout à l'heure, mais la rumeur est telle que les gens qui sont chargés, la Croix-Rouge guinéenne a failli se faire lyncher parce qu'elle enterrait un mort et que la famille était d'accord, elle l'enterrait après avec courage. La famille se retire, des jeunes arrivent et caillassent les membres de la Croix-Rouge guinéenne. Il a fallu appeler le chef de village qui a failli se faire lyncher aussi. On a appelé l'imam qui a failli avoir le même sort, qui a eu le bon ton de prendre les clés de la voiture des jeunes et de dire « je ne les rendrai morts ou vifs que quand vous partirez ». Et il a échappé à la mort. Mais on assiste à des scènes tragiques parce que la communication a été très mal faite au début. On ne s'est pas occupé de l'état des populations. On n'a pas su leur parler. Et ces gens, en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, sont des gens meurtris par des guerres civiles tragiques qui ont cassé toutes les structures sanitaires dans les deux pays et qui, avec la dictature de Sékou Touré, n'a pas non plus arrangé l'arrière-pays. Si vous allez, au fond, aller à l'abbé actuellement, dans le Fouta Djallon, vous serez mal reçu. Aller dans l'endroit où on va nous envoyer dans quelques jours, on sera peut-être mal reçu. Donc il valait mieux que je parle ce soir qu'à mon retour. Ça, c'est préférable. C'était sûr. Alors, voilà. Que puis-je vous dire encore dans les 25 minutes que je vais probablement dépasser d'une ou deux minutes pour conclure? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est lamentable. La solidarité n'apparaît qu'en cas de tragédie transmissible. S'il y a une tragédie très forte, si elle n'est pas transmissible, c'est pas une tragédie. Si elle est transmissible, alors ça devient sérieux. Et au fond, pour rendre les gens préoccupés de l'autre, pour faire preuve de solidarité, les inciter à la solidarité, il faudrait qu'il y ait une épidémie plus ravageuse et qu'il y ait vraiment des malades dans notre région. Mais quelle frayeur ça déclencherait. En conclusion, moi je voudrais redire mon admiration pour tous ceux qui se battent, ONG, organisations confessionnelles. Je pense que si tout le monde donnait 100 euros à Saint-Jean-de-Dieu, ce serait formidable. Ils ont des besoins énormes. On devrait les aider. J'avais pensé faire cette déclaration à l'Académie de médecine en disant, écoutez, mais je n'ai pas osé parce que c'est un établissement, comment on dit, public, donc laïque, et borné. Pas l'Académie, il ne faut pas. Mais enfin, bon, je passe là-dessus, ce n'est pas dans ma conclusion. Ce n'est pas écrit dans ma conclusion. Retenez peut-être qu'il y a eu jusqu'à présent 8500 morts dans les trois pays. C'est 8500 morts de trop. Mais qu'on attend 50 000 morts dans l'Est de l'Afrique s'il n'y a pas de solution avant juin à la crise alimentaire qui s'est inscrite. Et que la présence du virus Ebola a fait fuir des populations qui ne se font plus soigner contre le paludisme, qui ne se font plus soigner, qui ne se font plus vacciner contre la rougeole. Et que tout ça, la fuite des centres de santé est catastrophique. Mais ça a fait prendre conscience aux responsables politiques, et si vous lisez La Croix tous les jours, vous avez vu qu'il y a un article de M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui est Ibeka, qui est le président du Mali après ATT, et qui a dit c'est la restructuration de nos services de santé qu'il faut travailler. Au lieu de 10% du budget national qui devrait être consacré à la santé dans ces pays particulièrement atteints par beaucoup de maladies, très souvent, et c'est le cas de la Guinée, c'est 1,5% du budget national. Donc, c'est catastrophique. Et tant qu'il n'y aura pas des structures de santé de qualité, n'importe quelle épidémie à virus Ebola ou à autre agent pathogène pourra décimer les populations. Merci.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir fait part de vos connaissances, de vos engagements et on pourrait dire d'un diagnostic social et politique en mettant en relation différentes crises. Je trouve que c'est vraiment très très important que vous ayez pu montrer ça. Je pense qu'on pourrait y revenir dans les questions. Merci beaucoup de ces éclairages. Je passe la parole au professeur Catherine Leport. Vous êtes professeur des maladies infectieuses et tropicales, Université Paris Diderot et INSERM. Vous faites partie de l'unité de coordination du risque épidémique et biologique. Alors, vous êtes non seulement, on pourrait dire, une grande spécialiste de maladies infectieuses et tropicales, mais on pourrait dire que vous êtes investie non seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'action, dans les manières de faire face aux crises sanitaires par l'expertise médicale et aussi la communication. Donc, merci de nous faire part de vos réflexions, non seulement sur l'état de la recherche, la participation de la France, les modalités aussi de gestion des crises en France, et peut-être aussi les relations avec l'Afrique qui ont été bien décrites précédemment. Voilà, vous avez aussi peu de temps, mais excusez-moi, voilà, vous avez 25 minutes, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, merci mon père, merci de votre invitation. Et je dois dire que ce que je vais vous présenter maintenant n'a rien à voir avec le magnifique exposé du professeur Gentilini qui vous a fait vivre en Afrique cette épidémie d'Ebola. Comme vous l'avez dit, je suis clinicienne infectiologue et pendant 30 ans, j'ai participé à la prise en charge des patients atteints de sida dans le service de maladies infectieuses du fameux hôpital Claude Bernard, juste à proximité du périphérique, et je ne m'en suis pas beaucoup éloignée. Donc je suis absolument incapable de faire concurrence sur aucun des points à ce que vient de dire Marc Gentilini. Dans la suite de mon activité, j'ai eu envie, après ces 30 ans d'expérience très dense, de transposer pendant les 10 années qui ont suivi ce que nous avions appris avec les malades du sida aux nouvelles maladies infectieuses et à la dimension collective et de santé publique des maladies infectieuses où la prise en compte de la relation individuelle soignante est souvent un peu lointaine. C'est ce que je vais essayer de vous illustrer donc à travers mon propos. Donc, la première chose très importante, ça a été dit, mais je crois qu'il faut quand même qu'on le redise, s'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémie d'infection à virus Ebola en France. Le questionnement est tout autre, Et ce n'empêche pas la nation et chacun d'entre nous, bien sûr, d'être interpellé par ce qui se déroule actuellement en Afrique de l'Ouest, comme souligné. Alors certes, fin mars, notre pays a commencé à se préparer à accueillir des patients suspects de maladies à virus Ebola et à se protéger contre la diffusion improbable de l'épidémie sur son territoire. Mais aussi, nous avons plaidé pour dire que nous avions des responsabilités autres, tout aussi importantes, de partager ce que nous avions appris avec les pays atteints de nos compétences et de nos expériences passées dans le domaine plus global des maladies infectieuses émergentes qu'a rappelé Marc Gentilini. La maladie à virus Ebola s'inscrit en effet dans une histoire sans fin des relations de l'homme et des agents infectieux, comme l'avait énoncé Charles Nicolle, prix Nobel. Et dans son livre « Le destin des maladies infectieuses », il disait de celle-ci « Il en naîtra des nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes, celles qui subsisteront ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. » Alors après un bref retour sur les expériences et les enseignements tirés sur l'aide à la prise en charge des maladies infectieuses en France, nous décrirons l'état de la préparation face à l'épidémie d'Ebola en France et le dernier temps de cet exposé sera consacré à quelques réflexions sur le rôle de l'information et de la communication sur ces sujets. Donc un bref retour en 81 date où naît la plus importante pandémie des temps modernes, le sida. Que retenir ? Alors cette vision est bien entendu partiale, le prix Nobel de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour l'isolement du virus, mais surtout et aussi une mobilisation sans précédent de toute la société et une mobilisation inédite et déterminante des malades eux-mêmes. Elle conduit en 1996 à une véritable révolution dans le cours de la maladie avec l'avènement de traitements antiviraux puissamment actifs dans les pays dits développés. Au niveau de l'aide internationale, des centres de traitement se sont mis en place dans les pays touchés, sur les autres continents, sous l'impulsion notamment de la recherche et notamment de l'Agence nationale de recherche sur le sida, créée à cette occasion. Et c'est la persévérance de tous qui permet aujourd'hui, avec 10 ans de décalage néanmoins, l'inversion de la courbe épidémique dans les pays qui sont le plus touchés par cette pandémie. Lorsqu'en 2001, suite à l'effondrement des tours de Manhattan, circulent des enveloppes suspectes de contenir le bacille du charbon, les mêmes services de maladies infectieuses que ceux qui avaient pris en charge les malades atteints de sida sont sur le pont. Or, il n'y a eu aucun cas de charbon en France. Il n'y a eu que du sucre et de la farine dans les enveloppes, vous vous souvenez peut-être. Et là, nous avons pris conscience que le désordre était pratiquement le même que s'il s'était agi d'un véritable acte de bioterrorisme. Même perception en 2003, nouvelle alerte, le SRAS, cette pneumonie qui vient d'Asie avec un foyer secondaire au Canada qui devient en quelques jours donc un phénomène planétaire. Et ceci favorisé par la levée prématurée des mesures de protection collective préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Restriction des voyages, contrôles aux frontières, mise en quarantaine, on vient d'en parler. Alors en France, on se prépare, pendant 4 à 6 semaines, on reçoit des patients qui viennent de l'aéroport, descendant des avions d'Asie à travers les appels via le centre 15. 7 malades atteints de SRAS en France. De ces 2 crises rapprochées, une conclusion marquante, ce sont plus le ressenti et la perception du risque par les citoyens, et nous en sommes tous, que sa réalité vraie, qui sont source de panique et de désordre. Nous prenons alors conscience de la nécessité de réanalyser les aspects positifs et négatifs de ces crises a posteriori afin de se préparer à une nouvelle épidémie. Et c'est ainsi qu'il y a 10 ans, pour la première fois, il faut le reconnaître, l'homme va se préparer à une pandémie grippale. L'alerte sonne bien en avril 2009 pour un nouveau virus grippal H1N1, comme vous l'avez mentionné. Des scénarios catastrophes, on vous l'a déjà dit, des décisions retardées de réajustement conduisent cependant à des mesures de protection et de prise en charge mal comprises et mal appliquées en raison du décalage qui est qui existe entre la perception du risque par les citoyens et par les gestionnaires de crise. Certes, on peut déplorer certaines insuffisances, mais comme l'a dit M. Gentilini, combien de décès de grippe en 2009 ? Quelques centaines, soit au final bien moins que les quelques milliers de personnes âgées qui meurent de grippe saisonnière chaque hiver. Ainsi, l'intérêt de ces sujets est d'interpeller tous les rouages de nos sociétés au quotidien. Dans un premier message, je voudrais insister sur l'importance de travailler sur ces maladies infectieuses émergentes et de se préparer aux risques épidémie en temps de paix pour s'appuyer en cas d'urgence sur des circuits courts, rodés et efficaces. C'est le travail que nous essayons de développer. Deuxième point positif de ces crises, on peut bien sûr s'en trouver chagrin, elles dévoilent nos ignorances et nos incompétences. C'est dire l'importance d'oser aller à la rencontre d'autres domaines d'expertise et de coordonner une multiplicité de points de vue. Les médecins n'ont pas souvent l'habitude de travailler avec des vétérinaires, des agronomes, des mathématiciens, des sociologues. Ce serait pourtant une meilleure approche pour ces situations compliquées et mal comprises. Deuxième temps de cet exposé, comment s'est-on préparé à l'hypothétique arrivée du virus Ebola en France ? Alors je décrirai tout d'abord l'organisation, puis la façon dont ont été accueillis les patients suspects. Quelle organisation ? Alors, dès fin mars, lorsqu'on prend conscience qu'une épidémie d'Ebola avec une mortalité élevée progresse depuis 4 mois en Afrique de l'Ouest, certains collègues partent en Guinée pour aider à la prise en charge des malades et des possibles personnes en contact. En France, se met en place une analyse de l'état de préparation du système de santé et notamment des hôpitaux référents désignés en 2005 avec leurs services cliniques et leurs laboratoires. Durant cet été, le constat d'un décalage notable entre la réalité de la préparation et les conditions attendues pour accueillir un malade atteint d'Ebola conduit à une très intense activité de mise à niveau. Celle-ci s'inscrit dans un dispositif d'organisation sanitaire pour la préparation à une telle situation qui a été diffusé en mai 2014 par la ministre de la Santé. Dans le cadre de notre société de savantes de pathologies infectieuses, nous avions initié une animation en réseau de l'expérience professionnelle des médecins spécialistes de maladies infectieuses des hôpitaux référents intitulée « Coordination du risque épidémique et biologique » COREB. Elle est développée avec les autres spécialités, le SAMU, les urgentistes, les réanimateurs, les hygiénistes, les microbiologistes, afin d'aborder sous des regards complémentaires ces situations mal connues. Cette expertise de terrain multidisciplinaire a été inscrite cette année dans le dispositif sous forme d'une mission nationale au service des décideurs et des gestionnaires de crise. La COREB est chargée d'élaborer et de diffuser des procédures opérationnelles qui sont des sortes de guides de bonne pratique des professionnels. Elle a ainsi participé dès fin mars à définir les modalités d'accueil, de prise en charge des premiers patients suspects par les premiers soignants qui les verraient. Cette étape d'alerte et d'intervention précoce est en effet essentielle pour l'avenir d'une épidémie. Elle permet de dépister et de protéger. Passée cette étape, les organisations sont très vite débordées, l'infection s'étend et devient plus difficile à contrôler, comme c'est le cas actuellement en Afrique. Des procédures ont aussi été définies pour la protection des personnels soignants, qui sont fortement touchés en Afrique, de la collectivité nationale, les équipements de laboratoire nécessaires pour manipuler le virus, qui est un virus classé parmi les virus hautement agressifs, ont été définis, et la formation des personnels soignants au contact des malades a été soutenue pendant cette période. La dernière étape, c'est novembre 2014, et la publication d'un plan national maladie à virus Ebola qui vise à limiter l'introduction du virus et sinon sa propagation sur le territoire. Le scénario le plus probable envisagé dans ce plan est l'introduction d'une ou de rares personnes atteintes de maladie à virus Ebola en France. À ce stade, l'étendue de l'infection devrait pouvoir être limitée et aucune épidémie ne serait à craindre en France. Il est signalé une situation plus difficile, qui est celle d'un patient atteint de maladie à virus Ebola qui entrerait clandestinement en France, hébergé dans un foyer ou sans abri, et qui sera sans doute identifié plus tardivement, exposant un certain nombre de personnes qui ne sont pas toujours identifiables. Alors, comment est-il prévu d'accueillir un patient suspect? Ça a déjà été un petit peu évoqué. Le dépistage d'un patient suspect, c'est une étape décisive, clé, pour soigner le patient lui-même et protéger la collectivité. Il dépend du premier médecin auquel le patient s'adresse, et donc en amont de l'initiative du patient de consulter le système de soins. Tout patient suspect doit être isolé et considéré comme potentiellement atteint d'infection à virus Ebola tant que ce diagnostic n'a pas été écarté, car les mesures de protection des proches et des soignants sont d'autant plus efficaces qu'elles ont été mises en place le plus vite possible au cas improbable où le diagnostic de maladie à virus Ebola serait porté. Alors, il est recommandé que les professionnels de santé libéraux et hospitaliers fassent appel au centre 15 devant tout patient suspect. Celui-ci réalise une première analyse de la situation du patient, puis en liaison avec un infectiologue référent et un épidémiologiste de l'Institut de veille sanitaire, se déroule une étape d'expertise mixte épidémiologique et clinique qui a pour but d'affiner la connaissance de cette situation, d'en préciser la gravité et de repérer d'emblée les personnes qui auraient pu être en contact avec ce patient suspect. En fonction de cette étape d'évaluation mixte, le sort du patient est alors décidé. Il peut être réadressé à son domicile ou hospitalisé dans un autre service, comme ça a été le cas jusqu'à présent, le diagnostic est exclu ou une autre maladie est identifiée. C'est la situation la plus fréquente, c'est ce qui s'est produit en France. Si le diagnostic est possible, le patient est dans ce cas-là orienté vers un des services référents. Une telle organisation permet d'éviter le passage de ces patients dans un service d'urgence et donc le risque de transmission à d'autres malades y séjournant. C'est un circuit très rapide et très bref, très court, très direct. Les services cliniques référents sont adaptés pour recevoir ces malades avec des chambres particulières, avec des SAS, des méthodes de protection des personnels, des procédures d'habillage et de déshabillage, des restrictions du nombre de personnes présentes dans la chambre qui assurent au mieux la protection. La prise en charge comporte la réalisation d'un test pour affirmer ou écarter le diagnostic. Si le diagnostic est confirmé, un traitement est mis en route. Ce traitement comporte, bien entendu, le soulagement des symptômes et des troubles présentés par le patient, l'éventuelle prescription d'un traitement spécifique de l'infection à titre dérogatoire aujourd'hui, car actuellement, vous le savez, ces médicaments sont l'objet de recherches visant à établir la preuve de leur efficacité. Alors, pour résumer concrètement, depuis le début de l'épidémie, combien de patients suspects ont été pris en charge en France? Suspects. Donc, 700 patients suspects ont été signalés par le centre 15. Donc 95% par le centre 15. Autrement dit, le dispositif fonctionne bien. 700 patients suspects. Mais ce sont des situations où très vite, la majorité de ces appels ont abouti à exclure dès la première conversation le diagnostic et la suspicion d'Ebola. Combien de patients ont été adressés vers les hôpitaux référents pour faire un diagnostic? Les journaux en ont beaucoup parlé. Une vingtaine de cas aujourd'hui. Et bien sûr, dans ces 20 cas, le diagnostic n'a pas été porté. À ce jour, aucun cas de maladie à virus Ebola, je répète, n'a été confirmé sur les territoires français. Et vous savez que seul, vous savez mieux que tout le monde, parce que vous le savez avant les experts et les autorités même, seuls deux malades atteints d'infections graves et avérées à virus Ebola ont été rapatriés en septembre et en novembre pour prise en charge sur le territoire. Dans le dernier temps, je voudrais faire quelques réflexion concernant maintenant l'information et la communication sur l'épidémie de maladie à virus Ebola. comme dans toute épidémie, dans une telle crise sanitaire, des tensions fortes apparaissent très vite entre les enjeux individuels et les enjeux collectifs dans l'organisation nationale et internationale des réponses apportées. Des expériences passées, il apparaît clairement que la mise en place de l'application des mesures destinées à affronter une épidémie comme Ebola ne peuvent se faire sans l'adhésion de tous. L'information et la communication y jouent donc un rôle essentiel. Elles doivent prendre en compte et être adressées à tous les acteurs concernés pour permettre à chacun d'acquérir des comportements adaptés et de se positionner à sa juste place. Ces acteurs sont donc, bien entendu, les personnes malades, les soignants, les autorités administratives et politiques, ainsi que leurs opérateurs, les médias et tous les citoyens. Alors, je vais dire quelques mots sur l'information des patients et de leur entourage, qui est la base de la relation soignante, et puis quelques mots sur l'information du grand public, si j'ai quelques instants. Sur l'information des patients, je dirais qu'elle a pour objectif premier de répondre à ses interrogations, son inquiétude et la demande de soulagement qu'il formule en s'adressant au système de santé. C'est dans cette relation singulière que se crée au fil du temps la confiance qui permet de le soigner. De l'établissement de cette confiance avec les premiers soignants qu'il rencontre dépend son adhésion ultérieure aux soins, c'est un enjeu pour sa santé à lui, mais surtout et aussi aux mesures de protection, enjeu collectif. L'écoute et l'attention des soignants est donc ici déterminante afin que le patient se sente respecté dans sa dignité de personne et mobilisé dans une attitude de solidarité citoyenne d'intérêt collectif. Dans cette perspective, l'information doit être adaptée à sa situation spécifique, ses symptômes, sa compréhension, y compris dans une autre langue, ses connaissances, sa représentation de la maladie, de ses traitements, de ses modalités de transmission, des moyens de la prévenir, sans oublier ses croyances et son environnement social et psycho-affectif. L'acceptation peut être particulièrement difficile ici du fait que la personne craint pour sa vie et pour celle de son entourage dans cette maladie contagieuse et grave compte tenu de l'absence de traitement curatif validé aujourd'hui. L'acceptation confiante du patient lui permet de construire le lien entre sa propre prise en charge et la protection de l'entourage, vous le comprenez, et d'adhérer ainsi aux fortes contraintes requises pour la protection des proches et de la collectivité, au premier rang desquelles l'isolement protecteur. Le patient s'appropriant cette attitude solidaire peut alors devenir un véritable acteur de la santé collective. Comprenez bien aussi que l'accompagnement de l'entourage fait partie intégrante de ce processus engagé par le patient. La prise en charge doit ici réaliser un exercice délicat. Il faut conjuguer le respect de l'intimité et de la proximité du patient et de ses proches avec la nécessité d'isolement. Celui-ci constitue par définition une barrière à la communication. Il expose au risque d'exclusion et de restriction des libertés individuelles. La tension liée à cette distanciation physique est particulièrement forte et mal tolérée en situation de maladie avancée et de fin de vie, comme cela se passe bien sûr en Afrique. Des propositions concrètes sont donc à inventer pour recréer et préserver, à travers divers outils, la proximité de la présence de l'autre. Il est important de consacrer le temps nécessaire à expliquer les contraintes des mesures de protection collective. Alors, quelques mots maintenant sur l'information et la communication vers le public. La tension éthique concernant le positionnement des médias vient de la nécessité de conjuguer des missions de service public nécessitant une certaine discipline, des repères communs, un accès à tous à l'information, avec des intérêts commerciaux nécessitant de préserver une certaine autonomie et capacité d'interpellation. Il est clair que les médias jouent un rôle essentiel. Ils ont droit à recevoir et bénéficier d'une information précise sur l'épidémie, sa diffusion, la nature de la maladie, son mode de transmission, ses conséquences sur les personnes, etc., de manière à ce qu'ils puissent informer la population. Sur ce sujet, les médias partagent cependant avec les experts et les autorités gestionnaires de la crise qu'ils sollicitent une co-responsabilité de clarté, de véracité, de cohérence et d'actualité des informations produites. Il s'agit d'un travail important. À partir des données brutes, il comporte des étapes successives de validation des informations, de synthèse, puis de mise en forme pour être compréhensible par l'ensemble des personnes cibles concernées. Il faut donc expliquer qu'il s'agit d'un temps indispensable et d'un recul également nécessaire, délicat à conjuguer avec le contexte d'urgence sanitaire et d'urgence dans laquelle vivent en général les médias. Il est cependant indispensable au risque sinon d'erreurs d'appréciation qui seront ensuite sévèrement reprochées. Une grande difficulté est d'assurer une communication cohérente et diversifiée. Pourquoi cohérente ? Car au même titre que les personnes et les agents infectieux, les flux d'informations, aujourd'hui vous le savez, traversent la planète en quelques instants. La communication donc locale ne peut être en contradiction avec la communication au niveau national ou international. Le message ne peut être différent à Maubeuge et à Charleroi, nous a dit Didier Houssin dans sa présentation sur ce sujet lors d'un atelier au Sénat le 24 novembre dernier. Pourquoi la communication doit-elle être diversifiée ? Elle doit prendre en compte les barrières linguistiques, c'est élémentaire, et culturelles, obstacle majeur de l'adhésion des personnes aux mesures de lutte, comme observé encore aujourd'hui en Afrique. Monsieur Gentilini l'a eu expliqué dans un vécu très concret. Il lui faut pour cela conjuguer un socle commun de messages fondamentaux et des messages adaptés à des populations diverses, professionnelles, enfants, étrangers. Il y a donc un important travail de coordination, d'autant que les médias traditionnels vecteurs sont aujourd'hui fortement malmenés, vous le savez, et nous avec, par les réseaux concurrents via Internet et les réseaux sociaux sur lesquels circulent un certain nombre d'informations difficilement vérifiables. Alors le contenu de l'information, je ne reviendrai pas parce que tout était dans l'exposé précédent. Par contre, je dirais que ce contenu doit aussi aborder des sujets qui sont plus difficiles, qui sont les incertitudes et les sujets sensibles. La gravité de la maladie, ça a été dit, l'absence de traitement et de vaccins prouvés efficaces, les conséquences socio-économiques, ça a été dit, la restriction de liberté en cas de contact caractérisé avec un malade, sous forme de l'isolement, le devoir des personnels, des services essentiels. En d'autres termes, il faut partager les limites de nos connaissances et de nos capacités d'action dans une préoccupation d'honnêteté et de crédibilité. Mais il faut aussi souligner les bonnes nouvelles, le ralentissement de la progression dans certains pays, les travaux de recherche en cours, notamment sur les traitements, et partager les connaissances acquises. Les rôles des experts et des autorités qui sont en première ligne est également de communiquer sur les incertitudes. Mission impossible. Que de dire « nous ne savons pas ». Nous savons toujours. Dans le cas d'une épidémie comme Ebola en phase d'extension, le caractère partiel, et extrêmement évolutif des connaissances doit être affirché avec clarté et humilité, car la vérité d'un jour peut devenir caduque le lendemain du fait de l'apparition de nouvelles connaissances. Et le reproche que nous entendions régulièrement et que nous entendons toujours est le suivant. Comment peut-on vous faire confiance ? Vous changez tout le temps d'avis. La nécessité d'avis croisés d'experts au regard complémentaire et une certaine divergence de ces avis du fait de données et de connaissances incomplètes doivent être expliquées. Ces avis doivent dès lors être formulés avec une certaine modestie et une certaine transparence concernant les avis minoritaires. Il ne suffit pas cependant de produire une information honnête et crédible. S'il n'y a que ça, il ne se passe rien. L'enjeu véritable, c'est la réception et la compréhension des messages transmis. C'est elles qui permettent l'appropriation et l'acceptation des mesures contraignantes. Cette démarche est une démarche dynamique, lente, variable selon les personnes, interactive. C'est souligner l'intérêt de passer du concept d'information à celui de communication. l'intérêt d'une certaine réciprocité des échanges entre les décideurs, les professionnels des médias et les acteurs de la crise, tel que peut le réaliser, par exemple, un débat public. Le dernier enjeu que j'évoquerai ici est de savoir comment il est possible d'éviter le sensationnalisme source d'anxiété, dont la prise en compte représente près de 50% de la gestion des crises que nous avons vécues. Autrement dit, jusqu'où dire ? Faut-il une communication prématurée ou excessivement alarmiste ? L'objectif en serait la sensibilisation au risque d'un grand nombre de personnes et leur engagement dans des comportements préventifs. Les effets contraires seraient l'accentuation de l'anxiété collective, la diffusion de messages erronés, l'altération de la crédibilité des sources d'information et des gestionnaires de crise. Alors faut-il au contraire favoriser la rétention de certaines informations validées ? Sous-estimer le risque vis-à-vis de la collectivité en vue de minimiser l'anxiété, source de comportements inadaptés. Les effets contraires, là, pourraient être l'incompréhension de la situation et un désintérêt des citoyens pour la prévention, avec un risque de diffusion accélérée de l'épidémie. Autrement dit, faut-il informer sans alarmer ou faut-il informer sans rassurer ? Alors la proposition pourrait être celle d'une voie médiane qui serait une construction collective incluant des débats publics avec une information graduée faisant l'objet d'une diffusion progressive par étapes, adaptable au fil du temps, adaptable à l'évolution du risque et aux différents publics concernés. Une telle orientation permettrait à chacun d'exercer son libre arbitre, sa responsabilité et d'agir en connaissance de cause. Je m'arrêterai là, je crois, s'il est temps.
Vous avez encore un paragraphe. Terminez, si vous avez un paragraphe.
Je vais terminer donc, en vous disant qu'au terme de cette présentation, j'avais choisi de vous dire que les microbes resteront les éternels compagnons de route de l'humanité.
Si.
Il y a donc pour nous une nécessité vitale de continuer de nous y adapter. Je livre à vos réflexions le choix de deux principes dont le premier est partagé, comme j'ai compris, par Marc Gentilini, la solidarité, j'ajouterai la sobriété, qui peuvent nous guider pour une réponse plus cohérente à des événements qui ne cesseront de nous surprendre. Je n'ose imaginer vous avoir tous convaincus que nous sommes tous, et vous êtes désormais, des acteurs à part entière de la réponse à de tels défis. J'ose néanmoins espérer vous avoir donné l'envie de partager avec ceux qui vous sont proches ces interrogations et ces réflexions. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour vos analyses et on pourrait dire aussi pour tout ce que vous avez donné sur les difficultés de la communication qui ont été signalés précédemment aussi. Je crois que c'est un enjeu important sur lequel il faudra sans doute revenir. Henri, c'est comment maintenant les...
Ben écoutez, nous allons recueillir quelques questions. Voilà, Brigitte a l'amabilité de faire circuler le micro. Alors, manifestez-vous de sorte que nous puissions rapidement recueillir quelques questions. Voilà, madame... Oui.
Et vous attendez le micro, s'il vous plaît.
Vous avez bien précisé que cette maladie qui était au départ considérée comme une fièvre hémorragique n'est plus identifiée sous ce terme. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques éléments qui permettent de faire le diagnostic de la maladie, en dehors, bien sûr, de la recherche... des anticorps caractéristiques, je veux dire la sérologie. Bon, par ailleurs, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, puisque vous avez dit que le traitement ne cesse de changer, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du traitement qui est disponible ?
Voilà, merci. Donc, une première question d'ordre plutôt strictement médical. Nous recueillons d'autres questions. Oui, au milieu de la rangée, madame.
Je suis une familière de la Guinée. J'ai des amis proches à Kindia qui sont dans les membres de la famille sont en train de mourir de la fièvre Ebola. Et ce qui m'interroge dans les récits qui me sont faits, c'est que les centres de soins Ebola sont difficilement acceptés par les populations. Leur construction, leur installation, autant dans la banlieue de Conakry que dans les villages, les gens n'en veulent pas. Alors, pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'ils font peur. Ils font peur parce qu'on les voit comme des lieux de mort, on les voit comme des lieux de contamination. Alors, je demande pourquoi. Et est-ce qu'ils sont soignés quand ils sont dans ces centres-là? Est-ce qu'ils sont soignés? Certains fuient parce qu'ils ont faim. Alors, est-ce qu'ils sont soignés? Donc, c'est mes questions. Pourquoi ces centres font-ils tellement peur à la population, tellement que les malades, surtout dans les milieux ruraux, sont cachés? Alors, pourquoi ils font peur? Les malades sont-ils soignés? Et un malade qui a guéri, est-il immunisé à jamais? C'est une question plus technique, mais quel est le devenir d'un malade qui en sort, médicalement et humainement?
Entendu. Merci, madame. Nous prenons une dernière question devant. C'est une question qui nous vient de Bordeaux. Circulation du micro. Voilà.
Deux brèves questions. La première, c'est on n'a pas très bien compris la question de la Croix-Rouge guinéenne qui a failli se faire lyncher parce qu'elle enterrait un mort. Donc, c'était la première question. Et la deuxième question, vous voulez demander à Madame Leport, puisque nous sommes acteurs, de peut-être nous aider à préciser le message que nous aurons à transmettre autour de nous à propos de cette épidémie. Est-ce un message pour rassurer? Est-ce un message... voilà.
Voilà, merci pour cette première.
De la parole.
Monsieur Gentilini.
Oui, c'est une fièvre à virus hémorragique, avec hémorragie aléatoire, qui s'installe après une incubation comprise entre 2 et 21 jours. Donc la quarantaine, c'est 21 jours. Et la symptomatologie est extrêmement banale. Elle peut être brutale au début avec de la fièvre élevée, avec des vomissements, avec des troubles gastro-intestinaux plus importants encore, avec de la diarrhée qui déshydrate le patient, avec des éruptions, avec une pharyngite, bref, n'importe quoi. Il ne faut pas compter sur la symptomatologie pour faire le diagnostic. Le diagnostic, il se fait sur la symptomatologie plus l'origine et la possibilité d'une contamination. Donc, d'où vient le patient est la question prioritaire. Ce qu'il a est la question secondaire. Mais depuis combien de temps il a ces symptômes est une question importante car elle va déterminer la recherche de tous les cas qui pourraient être contaminés par ce patient. Deuxième question, je réponds peut-être mal, mais cette question est très importante concernant les centres de traitement des malades à virus Ebola. On les appelle des CTE. C'est le souvenir des CTA que nous avions mis en place pour la prise en charge des malades du sida dans un certain nombre de pays d'Afrique et qui se portent, eux, bien. C'est-à-dire, hélas, qui continuent à servir puisque l'épidémie demeure, même si elle est mieux prise en charge. Les CTE, c'est un abus de langage. Ces centres de traitement Ebola, non. Ce n'était pas des centres de traitement Ebola, puisqu'il n'y avait pas de traitement. Et ça, les populations l'ont très vite compris. c'était des centres de parquage. C'était des espèces de camps de concentration à minima, avec peu de gens, mais tous les suspects, on les enfermait. On les séparait des familles. Les familles perdaient parfois le chef de famille, qui était celui qui rapportait les moyens à la famille de se nourrir. Et cette cassure familiale, sociale, a été très mal vécue. Deuxièmement, tous ceux qui portent des uniformes, y compris en dehors des militaires, même les policiers, les gens de la Croix-Rouge éventuellement, sont mal vus parce qu'en Sierra Leone et en Liberia en particulier, ceux qui avaient des uniformes étaient des tueurs et des gens qui étaient redoutables de toute façon. Donc les populations se méfient maintenant de tout ce qui est imposé par des gens qui viennent parfois accompagnés de la force publique avec des gens armés, et ça a été contre-productif. Il fallait, avec les responsables locaux, qui eux-mêmes sont malmenés maintenant, avec les responsables locaux, dès le départ, faire comprendre, comme le souhaitent un certain nombre, avec raison pour une fois, des anthropologues, faire comprendre aux populations où on allait. Il fallait se mettre d'accord avec les médecins traditionnels, entre guillemets, qui ont été mis de côté et qui ont diffusé des messages tout à fait négatifs. Et ça, ça a été dramatique. Et ça n'a pas été bien fait. Il y a une erreur de communication qui est à l'origine de ce refus des populations d'entrer dans ces centres qui sont encore une fois des centres où on rassemblait les gens sans vraiment les traiter. On s'est aperçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on réhydratait les populations, les suspects, quand on leur donnait à manger, s'il y avait une sérologie confirmée d'Ebola, eh bien, on arrivait à les sauver. Donc il y a là un vrai problème et qui n'est pas encore tout à fait réglé. Et ça va avoir des conséquences politiques. Il y a des élections en Guinée cette année. Le président de la République veut qu'elles se déroulent cette année pour se conformer aux recommandations internationales. Mais ce sont des élections à risque, d'autant qu'il va y avoir des rassemblements de population et que ça peut aussi aider à la diffusion du virus. Donc c'est un problème très délicat et je crois que vous avez bien fait de poser cette question. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse très précise que d'aborder cet aspect avec beaucoup de précaution et beaucoup de compréhension de la société qui est meurtrie par cette infection. La troisième, alors les médicaments. Ben, les médicaments, je ne vais pas en parler beaucoup parce que il n'y a dès qu'on parle de médicaments, on est... Il y a le malade suspect est un malade abandonné ou un malade Kobe. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement ayant apporté sa preuve formelle, la preuve formelle de son efficacité. On est allé très vite, on a reçu l'autorisation d'aller vite, comme on l'a fait ultérieurement, au bout d'un certain temps pour le sida. On a pris des molécules qui n'étaient pas parfaitement validées, mais il fallait faire vite. Et on a bien fait. Et là, on fait probablement bien, mais on ne peut pas dire ça, c'est la molécule qui va guérir contre le virus Ebola. Il faut mettre beaucoup d'espoir dans la vaccination. Et je pense que quand il y aura un traitement confirmé, ce qui existe déjà maintenant en Afrique, dans ces centres de traitement Ebola, ces CTE, maintenant, la population sait qu'en venant, elle peut avoir des soins et elle voit des gens sortir guéris. Et ça, celui qui sort guéri, c'est un bon exemple pour faire comprendre que la maladie peut être prise en charge. Mais c'est très difficile encore. Quant à l'immunité, eh bien, il y a une immunité immédiate et je ne sais pas pendant combien de temps elle va durer, mais en tout cas, elle est telle qu'on a proposé la transfusion de sérum, de passage de sérum porteur d'anticorps, de sujets convalescents, de sujets guéris, à des sujets qui étaient atteints par le virus, et qu'il y a eu des exemples où on a obtenu des guérisons. Donc il y a une protection acquise. Est-elle solide, est-elle définitive? Je ne peux pas répondre.
Peut-être que vous pouvez préciser sur ce point, en France, où tu as des recherches, et puis répondre à la question de Bordeaux sur la... Finalement, nous sommes des agents de transmission, puisque le message était reçu de ce point de vue-là. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à transmettre en quelques mots, si j'ai bien compris la question?
Donc, un mot peut-être sur l'approche sur les traitements en France, d'abord. Donc, comme il a été mentionné, il y a eu depuis août, alors on peut se dire qu'on aurait peut-être pu démarrer un peu plus vite, mais enfin bon, il y a eu depuis août dans les... pays développés, une réflexion sur la recherche et la mise à disposition d'une partie de notre expérience de recherche pour essayer de trouver des médicaments qui permettraient de traiter spécifiquement l'infection, à côté des mesures très importantes qui, comme ça a été rappelé, permettent de faire passer la mortalité de 70 à 15-20 % lorsqu'on met en place des mesures pour réhydrater, nourrir, etc. C'est absolument clé. Donc ça revient à votre question, pourquoi les malades ne vont-ils pas au centre? La représentation qu'il y a actuellement des centres n'est pas la reflet de ce qui s'y passe. Et il y a là un problème de transmission et d'explication qui n'a probablement pas été encore suffisamment développé. Alors, pour les traitements spécifiques de l'infection, il y a deux types d'approches qui sont développées par les chercheurs. D'une part, le développement par des anticorps, soit des anticorps complètement spécifiques du virus, soit des sérums, comme on a dit, de patients convalescents. Et puis, des médicaments qui ont pour objectif de détruire ou d'empêcher au moins la multiplication du virus. Donc, ces travaux de recherche ont été mis en place, entre autres, à partir de l'expérience de l'Agence nationale de recherche sur le sida en France, qui a reconverti une partie de son activité dans ce domaine. Et il y a un essai thérapeutique qui est en cours avec des patients qui sont inclus à un stade déjà partiellement avancé de cet essai en Guinée, dont les résultats vont être analysés dans les prochains assez prochains temps. Ça, c'est pour faire le point sur les traitements. Ces traitements, donc, qui ne sont pas, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, sont accessibles pour les personnels soignants, par exemple, pour traiter les patients qui ont été rapatriés dans nos pays. J'imagine qu'ils ne le sont pas dans... un petit peu, ça commence.
Oui, ça commence. Ouais. Ça commence. Bien. Il y a une notion de partage à laquelle on peut plus échapper. Enfin, si vous voulez, ce ne serait pas acceptable qu'on dise il faut être rapatrié pour avoir droit à une molécule qui a une chance d'être efficace. Il faut aussi partager, donc il y a une partie de cette molécule, et il y a des essais qui sont en cours, vous le savez comme moi, qui sont coordonnés par Jean-François Delfrécy, qui a été nommé coordonnateur national, et qui est chargé avec à Massintin, par exemple, il y a des essais thérapeutiques, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que les molécules qui sont en essai sont efficaces, ont une efficacité démontrée. Il faut encore attendre, je crois, pour les valider définitivement.
Un petit peu de temps. Alors, c'est important de souligner l'importance de la recherche quand même à cette occasion, parce qu'on a vécu ça avec le sida, bien sûr. Le fait que la recherche venant de pays qui sont plus en avance vienne implanter des centres de recherche, des travaux de recherche dans les pays les plus touchés, est un moteur absolument majeur pour interpeller le système de santé, mettre en place des centres de traitement, etc. Donc, il s'est produit là avec Ebola, ce qui s'était déjà produit avec le sida. Et la recherche qui pose des questions, qui interpelle. C'est la recherche, c'est on ne sait pas, donc on cherche. On essaye de trouver des réponses. En général, on ne trouve pas la réponse qu'on attend à la question posée, mais on trouve d'autres choses. Et c'est vraiment un interpellateur majeur. Voilà, alors, un mot sur les messages.
Oui, pour les agents transmetteurs.
Pour les transmetteurs. Mais alors, vous faites partie des transmetteurs, monsieur Wildé. France Metteur, c'est une association qui était montée par le SAMU, hein, si je ne me trompe pas, pour des personnes qui acceptaient de jouer ce rôle très précis que vous avez pointé, de relais de transmission. C'est absolument capital quand il s'agit d'aller vers des publics très divers. Alors, le message, je redirais ce que j'ai dit pour commencer, il n'y a pas d'épidémie de virus Ebola en France. Je pense que si déjà tous les Français étaient absolument convaincus de ça, ça serait quand même très clair. Voilà. La deuxième chose, c'est que c'est très improbable que un patient arrive en France avec une maladie à virus Ebola, mais ce n'est pas exclu. Il y a eu une infirmière en Angleterre récemment encore. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a pris en charge deux patients rapatriés, qu'on a donc à travers ces deux expériences testé, corrigé une partie de l'organisation. Je dirais qu'on est à peu près prêt par rapport aux conditions qu'il y a par ailleurs à Macinta. On est quand même très, très équipé pour faire face à ces situations. Et il n'y aurait probablement pas, enfin je ne sais pas si vous pensez autrement, mais il n'y aurait probablement pas beaucoup de cas contaminés secondairement. Voilà. Le dernier point que je proposerais, c'est que en France, nous sommes avec une culture, je vais généraliser là, nous sommes avec une culture du risque et du risque infectieux, mais pas seulement du risque infectieux, hein, du risque d'inondation nucléaire, etc., qui est quand même assez peu évolué. Et il y a matière à progresser dans ce domaine. Ces sujets en sont. Et il est important que les personnes que vous êtes maintenant aient envie de poursuivre, de s'informer, de rester informées et de transmettre ces informations. Alors vous avez compris que c'est très compliqué d'être bien informé parce qu'il y a tout et rien. Et alors heureusement, les choses quand même s'organisent tout petit peu et on peut saluer l'existence d'un certain nombre de sites de référence, dont le site du ministère de la Santé, le site du ministère des Affaires étrangères, le site du CDC, hein, où il y a même une traduction en français. Les Américains se sont donné beaucoup de mal. Nous avons un site du CDC en français, je ne sais pas si vous vous rendez compte à propos des barrières linguistiques, mais je pense qu'on peut... Alors, CDC, pardon, oui, c'est Center for Disease Control, c'est-à-dire c'est l'équivalent de notre institut de veille sanitaire, hein, et c'est celui qui fait la loi, comme disait M. Gentilini, aux États-Unis. Voilà. Donc, ces sites sont des sites qui se sont très enrichis ces derniers temps et qui ont fait des gros efforts de zones dédiées pour les professionnels, mais aussi d'informations au grand public extrêmement compréhensibles. Lors de la pandémie, Didier Houssin avait incité à créer Mon quotidien en pandémie. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent d'avoir vu ce site. C'était vraiment tout le besoin qu'on a de tous les jours pour répondre à des situations comme celle-là. Et ils ont poursuivi dans cette perspective de venir très près de chacun des citoyens pour que les informations clés. Alors sur le site du CDC, par exemple, il y a exactement la réponse à vos questions, sauf qu'ils ont écrit les 10 messages clés. Alors on n'attrape pas Ebola avec son chien, enfin je ne sais pas, je l'ai parcouru tout à l'heure, mais je vous donne l'information, suggérer à ceux qui le souhaitent d'aller voir aussi les 10 messages clés du CDC.
Mais moi je me suis quand même demandé pourquoi il y avait si peu de gens aux deux premiers rangs. S'il y avait...
Vous avez une réponse. Le temps se fait court, nous sommes quasiment à 20h45, mais je pense qu'il y a place peut-être pour une dernière question. Je vois deux mains, même deux questions.
Là et puis là.
Nous allons
on a fait cette question.
Prendre quelques minutes de plus. Madame.
Bonsoir. Moi, j'ai bien entendu ce que vous disiez, Monsieur Gentilini, que pour des malades, en fait, il suffisait, d'une certaine manière, d'abord de réhydrater et de donner à manger à des organismes qui peuvent être fragilisés et dans des pays où le problème de la faim et de l'eau potable est un problème majeur. Donc, la question que je me pose, alors qui est peut-être politiquement incorrecte, c'est est-ce qu'il ne faut pas simplement d'abord combattre contre la faim et permettre l'eau potable dans ces pays plutôt que de dépenser des sommes absolument vertigineuses dans une recherche de médicaments dont on ne connaît pas bien l'efficacité et à quel horizon temps. Première question, et un peu corollaire, vous avez parlé du 1500 morts
rapidement
dans trois pays. Pour ce virus Ebola, je me demandais combien de personnes mouraient de faim et de soif dans ces pays, dans ces trois pays, pour là encore remettre en perspective.
D'accord, merci. On prend tout de suite la deuxième question. On n'en prendra que deux.
Oui, une question qui est en lien avec la posée tout à l'heure sur l'immunité. Il y a eu dans la presse un passage disant qu'il y avait éventuellement la possibilité de récidive ou immédiatement et que du coup les familles n'acceptaient pas le retour des patients soi-disant guéris ou apparemment guéris parce qu'ils avaient peur qu'ils ne le soient pas. Ça a été démenti ou pas, je ne sais pas. Deuxième point, c'est le risque pour la santé locale. Vous l'avez un peu évoqué, mais on a aussi écrit dans la presse que finalement, actuellement, il valait peut-être mieux avoir le virus Ebola dans ces pays que d'avoir l'appendicite parce que du coup on ne soignait plus l'appendicite car tout était désorganisé. Et troisième point, l'oubli.
Ça fait beaucoup
on a eu
questions.
Pas mal d'épidémies, vous avez parlé de Marbourg, etc. Et puis on oublie, on a parlé du SRAS, et puis on oublie. Où en sont les recherches sur ces éléments-là aussi?
Voilà, ça ferait certainement l'objet d'une autre soirée, mais...
Monsieur Gentil. Alors, j'ai peut-être très mal compris, parce que comme vous l'avez remarqué, j'essaie de le cacher, mais je suis malentendant, mais j'ai peut-être mal compris votre question. Il n'y a pas de choix à faire entre Ebola et la fin dans le monde. La fin dans le monde, je l'ai dit, si vous, j'ai dit qu'on attendait 50 000 morts par faim dans le monde en Somalie au cours de l'été qui va venir, après l'hiver. Bon. Donc ça ne nous échappe pas. J'ai bien fait remarquer qu'il n'y avait pas 10 000 morts, il y avait 8 000 et quelques morts, c'est 8000 de trop, j'ai dit, mais ça n'est pas une épidémie meurtrière encore de grande ampleur. C'est pas le... bon. Donc nous sommes bien conscients de tout cela, l'un n'empêche pas l'autre, et en tout cas, les désordres politiques, sociaux, économiques qu'entraînent l'apparition du virus Ebola dans ces trois États, et ces désordres sont catastrophiques. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Barack Obama. Vous ne me croyez pas, mais vous comprendrez Barack Obama, qui a dit que si ces trois pays étaient déstabilisés, ce serait dangereux pour le monde. Donc il y a là une menace grave. Mais je comprends bien votre question, tout est à relativiser, et les morts par paludisme, si j'ai bien compris ce que vous avez posé comme question, les morts par paludisme, c'est évident, il y a un Cubain, car il y a là-bas, en Guinée, des Cubains, des Chinois, des Russes, des Américains, des Français, qui sont là. Et un Cubain est mort d'un accès pernicieux palustre à Conakry, pratiquement ces jours-ci. Et il était de l'équipe qui était venue pour soigner le virus Ebola. Il y a des mesures qu'on oublie de protection et on est aveuglé par ce virus qui tient la une de toute l'actualité. Donc on est d'accord, il n'y a que sur le choix, non. Pas l'un ou l'autre, les deux, mon général. Ensuite, la question concernant, je ne sais plus où j'en suis, moi, parce qu'à partir d'une certaine heure, je ne suis plus efficace.
Puis il y a eu plusieurs questions
SRAS,
à la fois.
Le SRAS a été vaincu en 3 mois. Pourquoi l'Ebola n'est pas vaincu en 3 mois? Il y a un journaliste qui a très bien analysé la situation. Il dit parce qu'il y a eu une crise économique entre l'année du SRAS et l'année de l'Ebola maintenant, c'est que les pays n'ont plus d'argent pour investir suffisamment tôt. Il a fallu qu'il y ait une campagne internationale, une mobilisation internationale, en partie avec l'action de Médecins Sans Frontières, pour qu'il y ait cette mobilisation et de l'argent. Et la France est obligée de prendre en partie de l'argent du SIDA, du Fonds mondial que nous donnons au Fonds mondial, pour traiter Ebola. Et les gens qui défendent le sida ne sont pas d'accord, mais ils font... C'était le même reproche qu'ils faisaient avant. Ils demandaient qu'on prenne de l'argent des autres pour soigner le sida. Et maintenant, ils ne veulent pas partager. C'est très difficile. Bon. Qu'est-ce que je peux encore... L'appendicite. Eh oui, on meurt aussi de péritonite appendiculaire dans ces pays parce qu'on ne voit pas que le malade qui est isolé, qui est sous observation et qu'on touche, qu'on n'examine pas, n'a pas l'Ebola, mais une péritonite appendiculaire, par exemple. Ça, ce sont des faits concrets qui ont été évoqués, vus dans les centres de traitement, entre guillemets, Ebola. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, ça suffit.
Entendu. Dernière intervention.
Oui, sur le SRAS, simplement, vous savez peut-être que quand l'épidémie de SRAS s'est achevée, l'OMS a mis en place un système de surveillance à bas bruit. Alors, on ne parle pas des choses qui sont à bas bruit, donc on fait comme si on ne savait pas que ça existait, à juste titre. Je répète, il faut travailler en dehors des crises sur ces maladies. Et en 2012, il y a un nouveau coronavirus, c'est-à-dire le virus, un cousin du virus du SRAS, hein, qui a fait son apparition dans la péninsule arabique, vous en avez entendu parler, hein, et qui continue de sévir à bas bruit actuellement et ne fait plus la une de l'actualité. Mais enfin, les suspicions de patients de MERS coronavirus, comme on l'appelle, sont encore présentes dans les hôpitaux parisiens actuellement. On en voit de temps en temps. Voilà. Et alors, j'avais l'impression que vous pensiez qu'il n'y avait pas d'appendicite en Afrique.
Qu'il n'y aurait pas eu de cas de péritonite d'appendicite à Dakar.
Attendez, non, on s'est mal compris alors parce que je n'ai pas parlé de la péritonite de Dakar. Moi, je ne sais pas ce qui.
Non, mais je veux dire que moi, étant ayant travaillé à l'hôpital, je n'ai jamais vu de cas de péritonite
appendiculaire. Non, mais vous avez raison. Les appendicites.
Voilà, écoutez, nous allons peut-être nous arrêter sur l'appendicite. Bruno Sainteau, je ne sais pas s'il y a une conclusion à donner.
Non, il n'y a pas de conclusion, mais d'abord un grand remerciement parce que vous avez à la fois fait part de ce qui se passait là-bas, de notre intérêt pour nous aussi. Vous avez aussi souligné beaucoup l'interaction entre les différents facteurs, les différentes crises. Et puis, merci de vous êtes investi au quotidien. Donc, non seulement vous réfléchissez, vous cherchez, et puis vous allez repartir notamment en Afrique. Donc, on vous remercie de continuer à non seulement à nous informer, mais à agir aussi sur le terrain et agir dans la recherche et agir dans la prévention. Voilà, c'est simplement un grand merci de votre action.
J'ajoute mes propres remerciements, je crois, pour la qualité de votre intervention, le témoignage que cela représente et l'accent qui est mis sur la dimension sociale. J'ai été très frappé par une phrase que vous avez prononcée, la solidarité n'apparaît qu'en cas de tragédie transmissible, et c'est bien la question des frontières qui est posée très, très précisément. Voilà, un très grand merci. Monsieur Gentilini, Madame Leport, pour votre présence ici ce soir. Je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver le premier mardi de chaque mois, donc le premier mardi de février. Je ne sais plus s'il tombe le 5 ou le 6, c'est le premier mardi de février. Le sujet n'est pas complètement, plutôt la formulation du sujet n'est pas encore déterminée. Elle le sera demain, mais ce sera dans le champ suivant, énergie contre nourriture. L'enjeu, ce sera peut-on nourrir encore la planète ? Peut-on encore nourrir la planète ? Par certains côtés, nous ne sommes pas très loin de certaines questions évoquées ce soir, dans le contexte des transitions énergétiques que nous connaissons et que nous devons affronter. Autrement dit, à quelles conditions, à quel choix cela nous conduit ? Voilà, donc, mais vous serez informés avec plus de précision du thème de cette soirée. Merci de votre présence ce soir. Je vous rappelle que des urnes sont à votre disposition pour une participation éventuelle aux frais d'organisation de la soirée. Merci à vous. Bon retour.